Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Récemment, nous avons abordé le thème « Dieu est amour ». Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série de discussions sur le sujet « Comment le chrétien doit-il aimer à son tour ?»
Notre invité Jean-Marc va nous guider dans nos réflexions.
L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin.
Nous venons d'écouter la lecture de la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 8. Il s'agit de l'un des textes les plus connus de la Bible. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Yann, bonjour à tous. Oui, il s'agit d'un très beau texte, décrivant ce que le véritable amour doit être et la manière dont il doit être vécu. Ce n'est pas sans raison que ce texte est souvent lu à l'occasion de cérémonies de mariage, même si l'apôtre Paul ne pensait pas au futur couple lorsqu'il l'a rédigé.
À qui pensait-il alors?
Ces belles paroles apparaissent au cœur d'un long passage dans lequel l'apôtre Paul parle de l'Église. Paul, juste auparavant, vient de parler de l'importance des dons spirituels, rappelant que ces dons sont accordés aux chrétiens afin qu'ils puissent servir l'Église dans l'intérêt de tous. Toutefois, il affirme qu'il existe quelque chose de plus important encore que tous les dons de l'Esprit. Il s'agit de l'amour. Le chrétien est appelé à aimer ses frères et ses sœurs au sein de l'Église, et dans les versets lus, l'apôtre donne une belle définition de cet amour qui doit gouverner nos relations personnelles.
Vous venez de déclarer que l'amour dont il est question dans ce texte est celui qui doit être vécu entre les chrétiens. Cela veut-il dire que ces versets n'ont rien à voir avec le mariage ou la famille?
Je pense qu'effectivement, les couples mariés peuvent méditer ces versets et les mettre à profit. Ils peuvent en tirer des leçons qui amélioreront leurs relations intimes. Toutefois, il ne faut jamais oublier que ces paroles sont adressées principalement à l'Église.
Je marque depuis le début de cette série sur l'amour. Nous avons beaucoup parlé du mot grec « agapé ». Pouvez-vous confirmer que dans le texte lu, il s'agit de cet amour « agapé » ?
Je peux effectivement le confirmer, et en fait, nous y trouvons une très belle définition de ce que ce mot signifie. Nous découvrons aussi la manière de mettre en pratique cet amour dans nos relations personnelles. Mais je pense que pour mieux parler de cette définition de l'amour et de l'attitude qui en découle, il serait instructif d'être renseigné sur la situation de l'Église de Corinthe et ainsi de comprendre la pertinence de ce que l'apôtre Paul a écrit.
Parlez-nous alors de l'Église à Corinthe. Était-elle confrontée à des problèmes?
Oui. En lisant cette première épître, écrite aux Corinthiens, nous pouvons constater à quel point cette Église était en mauvaise santé. Les gens ne s'y entendaient guère, les divisions étaient évidentes, des rivalités apparaissaient. Différents groupes ou partis se formaient avec des idées divergentes. Ces groupes étaient en conflit les uns avec les autres. De plus, certaines personnes avaient des besoins matériels urgents, mais elles étaient négligées par ceux qui pouvaient y répondre, car on ne se souciait guère d'elles.
Vous dépeignez un bien triste tableau, je trouve.
Cela peut effectivement étonner de trouver autant de problèmes dans une église. Mais malheureusement, les hommes et les femmes n'ont guère changé. Et de nos jours, nous pouvons rencontrer des difficultés semblables dans nos propres églises.
Donc Paul a écrit à l'église de Corinthe afin de lui venir en aide.
C'est exact. Il souligne l'importance de l'amour et démontre la manière dont il doit être vécu. Prenons à présent quelques éléments de la définition de l'amour donnée par Paul, afin de comprendre plus en profondeur les leçons apportées. Lisons pour commencer. L'amour ne cherche pas à se faire valoir, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne cherche pas son intérêt.
Si Paul trouve nécessaire de prononcer ces paroles, c'est à n'en pas douter, parce que certaines personnes dans l'Église se mettaient en avant et qu'elles s'enorgueillissaient de leur position.
Tout à fait, Yann. Le véritable amour désire avant tout servir les intérêts des autres. Il cherche le bien des autres. Toute personne arrogante, qui attire l'attention sur elle et manipule les autres, se servant d'eux à des fins personnelles, n'agit pas avec amour. De même, le fait de créer et d'entretenir des rivalités et des divisions prouve que l'amour est absent du cœur de telle personne. Alors, imaginons à présent que des personnes orgueilleuses cherchent à imposer leur volonté, qu'elles se font des adeptes, et que vous vous trouvez parmi ceux écartés ou encore négligés, voire méprisés. Que ressentiriez-vous alors ? À quoi penseriez-vous ?
Il est possible que l'on devienne amer ou que l'on cherche un moyen de se débarrasser de telles personnes. Le découragement aussi peut être tel que l'on en arrive à quitter l'Église.
De telles réactions sont compréhensibles, tant il peut être difficile de supporter une telle situation. Cependant, écoutons de nouveau ce que l'apôtre Paul annonce. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. L'amour ne trame pas le mal. L'amour pardonne. L'amour persévère. L'amour est patient.
Je comprends à quel point les paroles de Paul s'adressaient aux Corinthiens dans leur situation.
Oui, nous pouvons avoir une approche sentimentale de ces paroles. Il est vrai qu'elles réchauffent le cœur, mais leur portée va bien au-delà. Ces paroles exposent la nature égoïste de l'homme. Elles veulent corriger certaines attitudes et comportements qui, s'ils ne sont pas modifiés, risqueront de détruire des relations humaines entre frères et sœurs d'une même Église et vouer cette Église à l'échec. Nous ignorons à quel point l'Église de Corinthe a pris au sérieux ces paroles sur l'amour. Cependant, si chaque croyant a mis cette exhortation en pratique, alors sa situation n'a pu que rapidement s'améliorer.
Merci Jean-Marc. Nous avons beaucoup parlé de l'Église de Corinthe, mais qu'en est-il pour nous? Comment devons-nous réagir devant ces paroles?
Nous nous trouvons tous confrontés à des situations différentes, impliqués dans des églises différentes. Mais voici les leçons principales à retenir. D'abord, il nous faut œuvrer pour que l'amour soit réellement vécu au sein de notre Église. Constamment, nous devons garder en mémoire l'enseignement de la Bible à ce sujet et en faire une priorité. Ensuite, nous devons nous examiner chacun devant ses paroles, chacun à la lumière des versets lus. Nous devons penser à la manière de mieux aimer notre frère et notre sœur dans l'Église. Toutefois, il ne faut pas simplement réfléchir à ces paroles. Il faut les mettre en pratique, ce qui parfois peut être le pas le plus difficile à entreprendre. Cependant, si nous voulons vivre heureux dans notre Église, il nous faut mettre nous-mêmes en pratique ces paroles du Seigneur, au lieu d'attendre que notre frère ou notre sœur fasse le premier pas.
Merci Jean-Marc pour cette discussion pénétrante et pertinente.
Comme nous venons de parler de l'amour du chrétien, nous voulons à présent réfléchir sur l'amour de Dieu.
Ainsi, tout au long de cette série, nos méditations bibliques porteront sur les images de l'Ancien Testament, donnant un aperçu de cet amour. Écoutons pour cela les paroles du prophète Ésaïe, chapitre 61, verset 10. Ensuite, Alain nous fera part de ses réflexions sur ce verset.
J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut, et il m'aura enveloppé du manteau de justice. Comme le fiancé se pare d'un turban, tout comme un prêtre, et comme la mariée s'orne de ses bijoux.
Si nous avons le privilège d'obtenir une audience auprès du président de notre pays, Il est recommandable de nous y rendre revêtus d'habits qui soient dignes d'honorer son statut. Si nous pensons nous marier avec un prince ou une princesse, il est souhaitable aussi de s'habiller en conséquence afin de bien représenter notre nouveau rôle. Mais qu'en est-il si nous désirons rencontrer l'Éternel ? Il est véritablement la personne la plus importante et la plus puissante que nous puissions connaître. Il est bien supérieur à tous les présidents ou princes de ce monde. Alors, nous pouvons nous demander comment nous revêtir en sa présence. Fort heureusement, l'Éternel ne nous demande pas que nous nous présentions devant lui en beau costume ou en robe de soirée. De même qu'il n'attend pas que nous soyons couverts de diamants. L'Éternel cherche la beauté, oui, mais pas celle d'habits somptueux. L'Éternel recherche la beauté de la justice et de la sainteté, la beauté de la pureté et de l'amour. Or, nul d'entre nous ne pourra jamais atteindre la beauté de caractère nécessaire pour se présenter devant l'Éternel, car nous ne sommes ni assez bons, ni assez justes, ni suffisamment purs. Cependant, ne nous désespérons pas, car selon le prophète, l'Éternel, dans son amour, a pourvu, et il nous donne ce dont nous avons besoin pour pouvoir le rencontrer. L'Éternel nous revêt d'habits de salut, et il nous enveloppe d'un manteau de justice. Autrement dit, l'Éternel nous accorde comme un cadeau ce dont nous avons besoin pour entrer dans sa présence. Sans être revêtus de la justice de Dieu, nous demeurons indignes de nous présenter devant lui. Toutefois, par sa grâce, l'Éternel a réglé le problème de notre péché et il nous a sauvés. Dorénavant, nous pouvons connaître Dieu, vivre en amitié avec lui et marcher en sa présence jour après jour. Dans la Bible, le Nouveau Testament poursuit avec cette image d'un Dieu qui nous revêt de sa propre justice afin de couvrir, voire effacer, notre injustice. Or, cela a été rendu possible grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Jésus a mené une vie juste, parfaitement pure et sainte. Ceux et celles qui croient en son sacrifice sur la croix reçoivent cette vie de justice comme un manteau qui les enveloppe et leur permet de connaître Dieu. Revêtus de ce manteau, l'Éternel ne voit plus que la justice dont il nous couvre. Que sont alors devenus les vieux habits symbolisant nos péchés ? Jésus les a pris, afin de les porter sur la croix. Réjouissons-nous alors de Dieu qui a fait de nous, pauvres pécheurs, des fils et des filles du roi de l'univers.
La louange jaillit de nos cœurs, car Dieu, par amour, a changé nos vies. L'image biblique des vêtements est une belle illustration de ce changement que Dieu a opéré en nous grâce au sacrifice de Jésus.
Nos deux séries sur l'amour se poursuivront la prochaine fois et nous vous invitons à nous rejoindre. Nous parlerons de nouveau de l'amour tel qu'il doit être vécu dans les églises.
En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.